Je voudrais laisser un message pour le sympathique auditeur très sûr de lui, qui a une vision un peu rétrécie des pieds noirs. Les colonisateurs, ceux-là qui savent ni oublier ni apprendre, qu'ils avaient plein de fatma, ceux-là qui vivaient sur le dos des pauvres et qui leur crachaient à la gueule, eh ben ils te merdent et ils te disent « va têter ta mère, petit con, va crever ». Voilà, c'était trop tentant, j'ai pas pu résister.
Je viens de regarder une émission parlant du 8 mai 45. On nous a relégués comme des pestiférés après 1h du matin. Et pour cette occasion, je pense à mon père qui, avec ses 9 frères, avait participé à la Seconde Guerre mondiale. Il était rentré dans l'armée en 1934. Et pendant que mon père se trouvait à Berlin et ses autres frères en Indochine, on a massacré sa mère et sa sœur, qu'on a violée et brûlée vivants dans leur douar. Et aujourd'hui, on nous relègue à 1h du matin. On a ainsi tué une deuxième fois ma tante et ma grand-mère que je n'ai pas connue. Je trouve ça complètement scandaleux. Sur ses 9 frères, mon père en 1962 n'en a retrouvé qu'un seul. 5 ont été tués durant la guerre d'Algérie, torturés et tués par la France. 4 ont donné leur vie à la France durant la Seconde Guerre mondiale et durant la guerre d'Indochine. Et aujourd'hui, une fois de plus, on les a tués.
Oui, bonjour Monsieur Mermeil. Eh ben, c'est Saloua de Val-de-Marne. Je viens d'écouter votre émission et j'étais très très émue. Merci beaucoup Monsieur Mermeil. Le Palestin existe, le Palestinien existera, le Palestinien il se battra pour sa terre. C'est pas une terre promise. C'est simplement une terre. Amérique, ta'oun. Israël, ta'oun. Mahmoud Derwish. Ma salama.
Voilà, je vous appelle parce que je voulais rebondir sur l'émission d'aujourd'hui. On est le jeudi 8 mai. À propos de la Palestine et de la création de l'État d'Israël. Et il me semble qu'il y a un film magnifique qui serait très complémentaire avec les informations qui ont été données dans l'émission. Le film s'appelle Mafate. Ça s'écrit M comme Marie, A-F-A-T-E, encore E et H. Ça veut dire les clés. Et c'est effectivement les clés que les Palestiniens gardaient quand ils avaient dû quitter leur maison. Et on peut faire un parallèle avec les clés que les Juifs d'Espagne, quand ils ont été chassés par l'Inquisition au XVe siècle, ont également emporté quand ils ont dû s'enfuir au Maroc, etc. Ils ont emporté les clés de leur maison dans l'idée qu'ils pourraient peut-être regagner l'Espagne un jour. À bientôt.
Il y a un mec, là, député UMP des Hauts-de-Seine, porte-parole de Sarkozy, Frédéric Lefebvre. Il dit, ce personnage, il faut aller plus loin et plus vite pour les réformes. Il faut aller plus vite pour les réformes. Je mets ma télé, après, qui c'est qui avait été Claude Allègre, au grand journal de Canal Plus. Ce monsieur, il dit, oui, la France a absolument besoin de réformes. Mais c'est quoi ce mot réforme qu'on entend à longueur de journée, tous les jours, réforme. Pour l'instant, les mots réforme que j'entends, c'est casser le code du travail, casser les retraites, casser nos libertés, et j'en passe des pires et des meilleurs. Ce mot réforme, c'est plutôt régression sociale qu'ils veulent, c'est tout, régression sociale. Ça commence par R aussi, c'est ça qu'il faut dire, la vérité. Réforme. Pour les riches, ce sera des bonnes réformes, mais pour nous, le peuple, ça va être pire qu'avant. Là, on commence à voir les conséquences de ces saloperies de réforme, là.
Eh oui, voilà quelques messages dans le répondeur de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37. Le débat continue, vous avez vu. C'est très chaud suite à cette intervention sur le papier du Monde diplomatique sur les pieds noirs restés en Algérie. Va têter ta mère, je savais entendu. Cette expression. Et depuis tout à l'heure, on rigole dans le bureau avec l'équipe de la Bastille. J'y suis un truc beaucoup moins rigolo, mais alors beaucoup moins rigolo, c'est ce à quoi cet auditeur fait allusion, c'est-à-dire au massacre de Sétif. Il faut rappeler que le 8 mai 1945, le même jour que la capitulation de l'Allemagne nazie, les populations du Constantinois, Sétif et Guelma en Algérie manifestent pour leur droit à l'indépendance. Et de ces rassemblements s'en suivra une des répressions les plus sanglantes de l'histoire coloniale française. Par la suite, collectivement et délibérément occultée. Aujourd'hui, alors que les débats continuent sur le nombre de victimes occasionnées par les colons, de 1500 à 45 000 morts, la représentation diplomatique française, en la personne de l'ambassadeur Hubert Collin de Verdière, a, on s'en souvient, il y a quelque temps déjà, qualifié cet épisode, jusqu'alors resté discret, de tragédie inexcusable, mais on en est resté pour l'instant à l'expression courageuse de cet ambassadeur. Il fallait signaler effectivement cette histoire si souvent et si longtemps et si longuement passée sous silence. Une histoire que célèbre aujourd'hui, commémore en tout cas aujourd'hui les Italiens, c'est l'assassinat d'Aldo Moro. Et on va revenir sur cette histoire et cette page tragique qui, évidemment, dépasse largement le seul cadre italien. On va revenir sur une série d'émissions qu'on vous avait proposées en juin 2004 dans une version revue et corrigée de cette journée du 9 mai 1978, l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. Je vais essayer de résumer, de resituer cette histoire dans la période qu'on a appelée les années de plomb, ou bien encore la guerre civile de basse intensité, ou bien la guerre sociale larvée. Il faut revenir aux années 50, où le parti communiste italien, le PCI, est très puissant dans la péninsule, avec jusqu'à 35% de voix. Sans doute doit-il ce succès, le PCI, à sa rupture avec l'Union soviétique. C'est la guerre froide, et les États-Unis sont très inquiets de la force de ce parti communiste en Europe. Aussi, dans les années 50, avec la CIA et les services italiens, les États-Unis mettent-ils en place le fameux réseau Gladio, dont le but est d'empêcher le développement du communisme dans la péninsule, quitte à soutenir l'extrême droite et les groupuscules fascistes italiens, toujours vivaces, qui vont tenter de déstabiliser le pays pour amener un putsch. C'est ce qu'on appellera la stratégie de la tension. En décembre 69, une bombe explose à Milan, faisant 16 victimes. L'attentat est d'abord attribué aux anarchistes, mais on découvre très vite qu'il s'agit d'un attentat d'extrême droite, tout comme d'ailleurs le fameux attentat d'août 1980 à la gare de Bologne, un attentat perpétré par l'extrême droite qui fera 84 morts. C'est à la fois contre le parti communiste italien jugé trop compromis et contre l'extrême droite que se développe ce qu'on appellera la gauche extra-parlementaire. Tout ce mouvement gauchiste de la fin des années 60 et tout au long des années 70 en Italie, avec des groupes comme Lotta Continua, Autonomie Ouvrière et les Brigades Rouges. Il faut rappeler que ces mouvements eurent une large base populaire, ouvrière, à la différence des mouvements gauchistes français qui n'ont jamais eu, eux, de base populaire. Alors venons-en à Aldo Moro, assassiné donc il y a 30 ans par les Brigades Rouges. Il est alors le président de la DC, la démocratie chrétienne, et s'apprête à entériner une coalition avec le parti communiste italien d'Enrico Berlinguer, avec le PCI d'Enrico Berlinguer. C'est ce qu'on appelle alors le compromis historique. Et c'est le jour même où ce compromis historique va être signé qu'Aldo Moro est enlevé par les Brigades Rouges. Un commando de 5 membres attaque et tue les gardes du corps d'Aldo Moro et enlève ce dernier. Ce sera 55 jours de captivité. Les négociations n'aboutiront pas. Le gouvernement italien refusera toute concession aux Brigades Rouges et Aldo Moro sera finalement assassiné. Je vous signale un livre tout à fait formidable et poignant sur ce sujet. C'est les lettres d'Aldo Moro, retrouver, c'est les lettres qu'il a écrites tout au cours de ces 55 jours de captivité. « Mon sang retombera sur vous », c'est dans la collection Le Point, au Seuil. Et on va donc aujourd'hui retrouver un certain nombre d'acteurs de cette période, notamment Prospero Gallinari, qui fut le geôlier, l'un des geôliers d'Aldo Moro, et aussi Francesco Cossiga, ex-président de la République italienne, ex-ministre de l'Intérieur de l'époque, et qui fut un intraitable négociateur qui refusa toute négociation. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, quels ont été les enjeux, quels ont été les... qui avait intérêt à tuer véritablement Aldo Moro, bien sûr les Brigades Rouges dans leur intransigeance, mais aussi aujourd'hui de plus en plus on met en cause à la fois la classe politique italienne dont Francesco Cossiga faisait partie, et aussi les pressions des États-Unis dans le cadre de cette guerre froide, mais il ne s'agit encore que d'hypothèses. Voilà, c'est notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la BAS, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour l'équipe de là-bas, c'est Bruno. Eh bien, oui, j'appelle pour réagir à la réaction de votre auditeur pied noir et pro-Israël. Voilà, bon, déjà pour lui dire qu'il devrait peut-être s'interroger sur ce qui fait qu'il s'identifie à des gens enfin un gouvernement qui chasse des gens d'une terre, comme c'est arrivé à ses parents. Bon, est-ce que ça serait pas peut-être parce que ces gens qui sont chassés cette fois sont des Arabes, mais surtout parce qu'ils demandent à ce qu'il y ait un débat avec des opposants dans la base, si j'y suis, demande qu'on a déjà entendu dans la bouche d'autres détracteurs de l'émission. Alors donc nous, les auditeurs de là-bas, on ne veut surtout pas de ce genre d'émission de débat qui ont malheureusement été initiés par Michel Pollack il y a quelques années. C'est bien triste qu'il doit le regretter, le premier, qu'il soit à l'origine de ce genre de choses. Bon, les émissions de débat, ton ami Chomsky l'a déjà montré, sont des émissions où on ne dit rien d'intéressant, où on se balance des slogans à la tête, des choses un peu viscérales qui s'adressent à ce qu'il y a de plus bas chez les auditeurs, et dont il ne ressort jamais rien. Nous, on préférerait que là-bas continue comme ça. Je préfère me taper une heure d'éditorial de Alexandre Adler ou de Jean-Marc Sylvestre plutôt que n'importe quelle émission de débat. Et malheureusement, cette gangrène est en train de gagner France Culture. Des gens comme Finkielkraut, etc., font des émissions de débat qui sont totalement inintéressantes. Il faut que là-bas et les autres émissions de France Inter continuent à exposer des points de vue et non pas des spectacles de débatteurs, de battleurs. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc ce genre d'argument, ça ne vaut rien. Ce n'est même pas la peine d'y prêter attention.
Oui, allô, bonjour. Je suis de Tourterelle. Je suis le représentant de toutes les tourterelles dont s'occupe l'auditeur préféré de la station. Je l'ai encore vu hier dans le message donné par cet autre auditeur, celui qui nous nourrit habituellement et beaucoup, beaucoup aimé. Et ça nous fait très, très plaisir. Alors, en guise de remerciement et au nom de tous les miens, je vais pousser mon cri de bonheur, le cri de la tourterelle. Mais attention, il ne s'agit pas du cri du pigeon, avec lequel on nous confond souvent. Je ne peux pas vous montrer quel est ce cri du pigeon, car je n'en suis pas un. Alors, il s'agit bien de la tourterelle. Écoutez bien. Voilà, c'est comme ça que nous disons merci à notre façon. Alors, je dis merci à notre bienfaiteur. Et à tous ceux qui l'apprécient, tout comme nous. Au revoir, Daniel. Merci aussi à toi.
Qui est Radio Alice?
Era il manifesto cannibale di Dada e i dadaisti.
Daniel Mermet, la base j'y suis avec Francesco Giorgini, l'Italie rouge, l'Italie noire, l'Italie des années 70.
Flight number 2. Sabato 12 marzo, 5 compagni arrestati.
La polizia sfonda la porta di Radio Alice.
Alle ore 13.15 di venerdì 11 marzo, un tenente della polizia scende da una macchina civile, punta la pistola, spara alla schiena di Francesco, scende, si apposta, punta la pistola alla polizia. Associazione a delinquere, istigazione, vilipendio, dicono. Punta la pistola, prende attentamente la mira, con fredda decisione, spara alla schiena di Francesco.
Assassini!
Il compagno Francesco dice: mi hanno beccato, cade morto tra le braccia di un altro compagno, come noi. 100.000 a Roma, da tutta Italia, 100.000 studenti e non studenti.
Il y avait une fièvre politique en Italie, nouvelle, dans ces années-là. La possibilité de masse populaire de pouvoir obtenir des choses qui étaient tout à coup à la portée de la de lutte.
E quindi molti compagni cominciano a interrogarsi se...
Ed è a partire da là che beaucoup, beaucoup de ses camarades qui ont pratiqué l'illégalité diffuse pendant des années se demandent après les échauffourées, les insurrections
de 77... quello che si può chiamare il salto di qualità. Bruttissimo termine, ma quello era.
Si c'est pas le moment de faire ce qu'on appelait à l'époque, avec un terme qui ne me plaît pas du tout, le saut qualitatif.
Saut qualitatif, vers la lutte armée.
Voilà.
Une chose était très claire. Que le système.
Une chose est très claire, le système utilisé par les brigades rouges, celui de monter les marches dans les objectifs.
N'avait pas une solution arrivée au moment où prenait prisonniers morts, que c'était.
Cette logique des marches à monter dans le choix des objectifs était une logique qui s'arrêtait au moment où tu arrives au sommet de la hiérarchie. C'est-à-dire que quand il prend Moro, en 1978, qui est à ce moment-là l'homme politique probablement le plus important d'Italie, après ça, quoi?
Le seul coup d'État qui n'est pas ridicule est le coup d'État qui réussit. Les coups d'État qui ne réussissent pas, ils sont toujours ridicules.
Le 13 mai, à Rome, des milliers de personnes recueillies défilent à l'endroit même où le corps d'Aldo Moro a été retrouvé.
Comment s'appelle la rue ici ?
Via Michelangelo Caetani.
Voilà, et là, on est devant une plaque qui est posée sur ce mur, avec deux gerbes un peu fanées, puis un bas-relief qui représente Aldo Moro. Et c'est donc là qu'on l'a retrouvé.
Si, qui la mattina del 9 maggio 1978.
Ici, le matin du 9 mai 1978.
È stata parcheggiata dai brigadisti rossi la macchina Renault 4.
A été garée la voiture, la R4.
Dentro la quale c'era il cadavere di Aldo Moro.
Dans lequel gisait le cadavre di Aldo Moro.
Mon sang retombera sur vous, sur le parti et sur le pays. A-t-il tremblé, sa main tremblait-elle, lorsqu'il écrivit ces mots, Aldo Moro, entre le 16 mars 1978 et le 9 mai 1978, au cours de ces 55 jours qui ébranlèrent le monde, on peut dire le monde, en tout cas l'Italie, en tout cas la conscience et l'inconscient de ce pays. Aldo Moro écrit cette phrase, il est le secrétaire général de la démocratie chrétienne, c'est un personnage politique éminent dans son pays. À qui écrit-il ? Eh bien, il écrit à Andreotti. Andreotti, qui est le président du Conseil et qui est la figure que l'on sait, l'inoxydable Andreotti, qui, par la suite, sera compromis et jugé pour compromission, entre autres, avec la mafia. Aldo Moro sera exécuté le 9 mai 1978 par les Brigades Rouges. Alors, il faut se replacer dans l'époque. C'est ce qu'on essaye de faire. On est allé à Milan et pour évoquer cet attentat du 2 décembre 1969 contre une bombe posée d'une manière anonyme dans le hall d'une banque et qui est attribuée rapidement d'abord à des anarchistes et puis ensuite on s'aperçoit qu'il s'agit d'un complot d'extrême droite, d'un attentat d'extrême droite avec des éléments des services italiens
donc une partie de l'État, peut-être d'autres forces occultes qui sont derrière. Et en tout cas, on essaye en Italie d'installer ce qu'on appellera la stratégie de la tension. Il s'agit de créer un chaos propice à l'arrivée d'un pouvoir fort. C'est le contraire qui va se passer. L'opinion va comprendre la menace, va comprendre la machination, et c'est au contraire une mobilisation, une effervescence, des revendications, toute une contestation qui gagne l'Italie. Aussi bien dans le cadre politisé du Parti communiste italien et des syndicats que du côté de ces mouvements, de ces qu'on appellera la gauche extra-parlementaire ou extrême-gauche. Les mouvements, les noms les plus connus, c'est Poter Operaio, c'est Lotta Continua. Une foule de petits groupes comme ça vont se constituer. Et puis, on va aller vers un durcissement, notamment à Bologne, où nous étions en 1977, où la contestation étudiante prend des tours d'insurrection armée et le gouvernement envoie des véhicules blindés. Les choses se durcissent et on arrive de cette façon à 1978, donc à Rome. Et le 16 mars, donc, les Brigades Rouges enlève Aldo Moro. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Et il faut évoquer, évidemment, ce que sont ces Brigades Rouges, c'est-à-dire une sorte d'armée clandestine qui a pour but de prendre le pouvoir, de déstabiliser le pouvoir et d'aller attaquer au cœur même du pouvoir. Les Brigades Rouges, au départ, étaient un groupe comme les autres, un groupe de contestation comme les autres, mais avec le temps, ce groupe s'est durci et passé à la lutte armée de façon offensive. Alors, avec nous aujourd'hui, parmi ceux que nous avons rencontrés au cours de ce voyage, on rencontrera aussi bien Prospero Gallinari, un ancien des Brigades Rouges, que Francesco Cossiga, l'ancien président de la République italienne, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. On commence par Prospero Gallinari, qui habite non loin de Bologne, et on le retrouve dans un appartement, dans une sorte de HLM, où il vit en liberté tout à fait limitée, puisque il ne peut sortir de son appartement que 2 heures par jour. Il est là, c'est une sorte de prison indulgente, si on peut dire, puisqu'il a un accident, un problème de santé. Et c'est là qu'il nous attend et qu'il nous explique et nous apporte des lumières lointaines de cette époque qui n'est pas morte, qui n'est pas classée. C'est une affaire qui n'est pas classée, c'est une affaire qui bouge encore, c'est une histoire qui bouge encore en Italie. De l'enlèvement d'Aldo Moro. Là, tu étais présent.
Certo.
Oui.
Si, ero presente.
J'étais présent.
Il sequestro Aldo Moro è un passaggio, ma è anche una continuità. È un passaggio.
La sequestration, l'enlèvement d'Aldo Moro, c'est un passage, mais c'est aussi dans la continuité.
È un passaggio perché è un attacco al palazzo.
C'est un passage parce que c'est l'attacco au palais.
Al punto più alto del potere politico in Italia.
Au point le plus élevé du pouvoir politique en Italie. L'attaque au cœur de l'État.
Noi siamo in una fase ancora di propaganda armata.
On est encore dans une phase de ce qu'on appelle la propaganda armée.
Et donc tu étais là.
Sì, ho fatto parte del comando di Diafani e m'è provato, non abbiamo mai avuto nessun problema. Per cui non ho bisogno di negare la presenza o meno di quel.
Tout à fait, j'étais présent dans le groupe de feu de Via Fani et j'ai aucun problème à l'admettre vu que la magistrature l'a déjà établi. Donc oui, je faisais partie du commando de Via Fani. Oui.
Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Coperti da un telo, sono 2 uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi, sono 4 morti, mi dice
più un ferito,
mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E Semmer, mi dice ancora questo collega, ti ringrazio.
E allora la voiture était garée à mi-distance, exactement à mi-distance, entre le siège de la DC e il siège du PCI.
Esattamente, qui a poche decine di metri da qui, sulla destra, c'è la sede del Partito Comunista, quella che fu la sede del Partito Comunista oggi non c'è più.
A quelques dizaines de mètres d'ici, vraiment quelques dizaines de mètres, sulla via delle botteghe oscure, il y a ce qui a été le siège historique du Parti Communiste Italien.
La rue des boutiques obscures.
Ouais. Oui. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Ils ont vendu l'immeuble.
Et le siège de la DC est de l'autre côté.
Non, è dalla stessa parte, dietro questo palazzo.
C'est de le même côté, mais derrière cet immeuble là-bas.
Si chiama Piazza del Gesù.
Et ça s'appelle Place du Gesù.
Pourquoi cette mise en scène symbolique?
Perché, come l'hanno spiegata, appunto hanno fatto ritrovare il corpo di Moro nel luogo appunto simbolico dove c'erano i due partiti che in quel momento stavano governando il paese.
C'était justement un choix symbolique pour montrer comment le cadavre de Moro pesait sur les deux pays et les deux partis qui à ce moment-là étaient en train de gouverner le pays.
C'est-à-dire que l'intention, elle était que Aldo Moro s'apprêtait a signé un accord historique entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne, c'est ça. Et, en principe, les Brigades Rouges étaient censées s'opposer à cet accord.
Sì, certamente, anche se la scelta delle Brigate Rosse non era esattamente contro il lavoro che stava facendo Aldo Moro.
C'est vrai, mais en même temps, le choix des Brigades Rouges n'était pas exactement contre le travail que Moro était en train de faire.
Le Brigate Rosse decisero di colpire la Democrazia Cristiana, che era il partito simbolo dello Stato.
Le Brigate Rouge decide d'abord de toucher au cœur la Democrazia Cristiana, che è il partito simbolo dell'État.
Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera.
Cari amici.
À partir de quand vous avez été ministre de l'Intérieur?
Dal gennaio del 1976 fino al maggio del 1978.
À partir de janvier 1976 jusqu'à mai 1978.
Quando mi sono dimesso dopo l'uccisione di Moro.
Quand j'ai démissionné après l'assassinat d'Aldo Moro.
E 8 mesi dopo sono stato nominato presidente del Consiglio.
Et 8 mois après, j'étais nommé premier ministre.
Je voudrais que vous évoquiez votre pays avant, à partir de 69, enfin quand vraiment commence cette période-là.
La différence entre l'Italie et la France.
La différence entre l'Italie et la France.
Et que la politique et que la culture française ont saputo gestire et métaboliser le 68.
C'est que la politique et la culture française ont su gérer et métaboliser 68.
Cosa che noi non siamo riusciti a fare.
Chose que nous on n'a pas été capable de faire.
Alors voilà, Francesco Cossiga était donc ministre de l'Intérieur à l'époque, en 78, au moment de l'enlèvement et de l'exécution d'Aldo Moro. Il a été donc ministre de l'Intérieur, il a été chef d'État, il est aujourd'hui sénateur à vie, et il nous reçoit à Milan. Il a été reconnu toujours aujourd'hui par ses adversaires, par ceux contre lesquels il s'est battu, par ceux qu'il a fait emprisonner, comme un adversaire loyal. C'est assez rare pour que nous ayons eu envie avec Francesco de le rencontrer.
Devo dire che il 68, per esempio, da me che ero già un uomo politico, è stato vissuto come un periodo di speranza.
Je dois dire que pour moi 68, à l'époque j'étais déjà un homme politique, a été vécu plutôt comme un periodo d'espoir.
La responsabilità è stata della cortina di ferro che esisteva nel nostro paese.
La responsabilité pour les événements de la suite a été plutôt du rideau de fer qui pesait aussi sur notre pays.
Noi avevamo due egemonie.
Nous on avait deux hégémonies.
L'egemonia del Partito Comunista.
L'hégémonie du Parti Communiste.
Il cui motto era né pas d'ennemi à gauche.
Dont le mot était
pas d'ennemi à gauche.
Pas d'ennemi à gauche.
E anche della Democrazia Cristiana.
Et l'autre hégémonie c'était celle de la Démocratie Chrétienne.
E così il 68 ha creato una specie di rivolo sotterraneo.
68 ha creato un'espèce di ruisseau souterrain.
Che poi è riaffiorato.
Che ha risurgito.
In modo tellurico, diciamo.
D'une façon tellurique.
Prima nella contestazione dell'autonomia, di lotta continua.
D'abord dans la contestation de l'autonomie ouvrière, de lotta continua.
Che erano contestazioni violente ma non armate.
Qui étaient des contestations violentes mais pas armées.
Che poi hanno prodotto insieme a spezzoni del Partito Comunista.
Et qui après ont produit avec des morceaux du Parti Communiste.
I movimenti armati, le Brigate Rosse.
Les mouvements armés, les Brigades Rouges.
Prima linea,
premier linea,
in app, mentre a destra si è verificato lo stesso.
Pendant che a droite aussi il y avait l'insurgence d'un mouvement terroriste.
Come i nuclei armati rivoluzionari e così via.
Come le NAR, le nuclei armati rivoluzionari.
Come vous avez vécu ça? Vous êtes ministro dell'Intérieur?
Ho dormito poco 55 giorni.
Pendant 55 giorni j'ai presque pas dormi.
Aldo Moro était votre ami?
Sì, molto amico. Io debbo la mia carriera politica a Moro.
Moi je dois ma carriera politica a Aldo Moro.
Lui mi ha nominato ministro dell'Interno contro tutte le prévisione.
C'est lui qui m'avait nommé ministre de l'Intérieur contre toute attente.
Pendant ces 55 jours, à quoi vous pensiez?
Ah, pensavo solo alle cose da fare in quel momento.
Je ne pensais qu'à autre chose qu'aux choses à faire dans le moment.
La decisione più dura è stata quella di non trattare.
La decisione la più difficile, la più dura, c'était celle de pas négocier.
Perché a differenza di altri che l'hanno presa nella speranza,
parce que contrairement d'autres qui ont opté pour ce choix avec l'espoir que ça sert à la libération,
trascinati da quella logica stereotipa rivoluzionaria.
Moi j'avais compris que les Brigades Rouges, selon les clichés della logica rivoluzionaria, les aurait amené a tuer Moro.
Chi parla? Brigade Rosse. Ha capito?
Sì.
Adempiamo.
Chi parla? Les Brigades Rouges. Vous avez compris? Oui. Alors voilà, nous avons suivi les dernières volontés du président. C'est pour dire à la famille où trouver le corps d'Aldo Moro. Vous m'entendez? Non, pas très bien. Vous pouvez répéter? Non, je ne peux pas répéter. Alors écoutez, il faut avertir la famille qu'elle trouvera le corps d'Aldo Moro via Caetani. Via Caetani. C'est la deuxième rue à droite dans la via des Botteghe Oscure. Bien compris? Oui. Le corps est dans une R4 rouge. La plaque minéralogique commence par M5. Nous sommes donc le mardi 9 mai, il est midi précise. L'un des plus vieux amis d'Aldo Moro, le professeur Trito, reçoit ce coup de fil qui annonce l'exécution du président de la démocratie chrétienne.
Immense émotion, évidemment, en Italie ce jour-là. Après 55 jours d'attente, de tergiversation, de choix entre la négociation, faut-il négocier avec peut-on, faut-il négocier avec les Brigades Rouges, ou faut-il choisir la fermeté? Toujours aujourd'hui, on se perd en analyse, en soupçons, ce que les Italiens appellent la rétrologie. Rétrologie, c'est toujours supposer qu'il y a quelque chose derrière. Derrière ça, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et ce mot, lui, si peu courant chez nous, et si courant en Italie, pourrait lui seul résumer cette affaire. L'opaque, l'obscur, le mafieux, le souterrain, le secret, et aussi le corrompu, la corruption. Aujourd'hui, combien, 25, 26 ans plus tard, on ne sait toujours pas précisément ce qui s'est passé. Mais les hypothèses continuent, les livres continuent de s'écrire, les films de se tourner sur ce qui s'est passé dans ces semaines terribles. Les Brigades Rouges étaient-ils ou non manipulés? Alors il y a deux thèses, il y a ceux, les Brigades Rouges eux-mêmes, qui vont nous dire que non, ils ont fait, c'était vraiment leur initiative, c'était leur politique, c'était leur projet, et d'autres, nombreux, très nombreux, pour dire il y avait quelque chose, quelqu'un, une main derrière cette action et cet enlèvement. C'est le cas de Giovanni Bianconi, qui est un grand journaliste qui a écrit sur les Brigades Rouges et sur les brigadistes d'ailleurs, et qui est journaliste au Corriere della Sera. Est-ce que che tu puoi parlare di una manipolazione delle Brigate Rouge?
Una spiegazione che possiamo dare alla domanda di prima, cioè il fatto che in 55 giorni non sia stato trovato il luogo dove era tenuto Aldo Moro.
Comment pendant 55 jours, malgré un déploiement de forces précédent, on n'arrive à rien trouver sur la cachette de Moro?
Può trovare una spiegazione nel fatto che non tutte le forze di polizia.
On peut se poser effectivement la question, on peut mettre l'hypothèse che des parties des forces de l'ordre qui étaient impliquées dans soi-disant la recherche de Moro aient eu plutôt intérêt à ne pas le trouver ou à mettre les choses d'une façon que les Brigades Rouges puissent continuer à faire leur travail sans être dérangé.
Est-ce qu'il peut y avoir là-dedans une manipulation, par exemple, de la loge P2 ou des réseaux Gladio, ou est-ce qu'on peut, ou ça c'est des théories un peu...
No,
il complot, c'est le théorie du complot.
Sì, questo si può teorizzare, ripeto, qui entriamo nell'ambito delle ipotesi senza prove.
Allora, évidemment, on est dans le champ des hypothèses, mais la loge P2 était effectivement et contrôlait effectivement à cette époque les services de sécurité. La loge P2 est effectivement une émanation d'intérêts atlantistes qui avait donc des positions très anticommunistes.
Delle cose con le quali la politica di Aldo Moro poteva entrare in conflitto.
Et qui était sûrement gêné, sûrement pas d'accord, voire irrité par l'initiative d'Aldo Moro d'ouvrir de plus en plus la voie du pouvoir au Parti communiste en Italie.
Pendant ce temps, la police de Rome poursuit ses perquisitions méthodiques et les contrôles des voitures autour de la capitale sont très stricts. Un après-midi marqué par ailleurs par les obsèques des cinq gardes du corps de M. Aldo Moro, en présence de nombreuses personnalités politiques et d'une foule considérable, presque des funérailles nationales, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Rome, Pascal Delannoy.
C'est en frappant dans les mains que les Italiens ont rendu cet après-midi hommage aux cinq gardes du corps d'Aldo Moro. Lorsque les cinq cercueils portés par des carabiniers ont quitté la basilique San Lorenzo, ils ont été des centaines à applaudir, une manière de saluer ceux qu'on considère comme des héros. À la télévision, c'est toute l'Italie qui a suivi ces obsèques, unie une fois de plus pour condamner cet assassinat, ces assassinats et au-delà bien sûr l'enlèvement d'Aldo Moro. À la basilique même, le président de la République, Giovanni Leone.
Alors tout se passe comme d'habitude, c'est-à-dire que l'émotion inhibe la réflexion et la raison et laisse tout le champ possible au cynisme du pouvoir. Y a-t-il eu manipulation ou non? Un point de vue qu'on rencontre souvent, celui de Giovanni Bianconi, et au contraire d'autres qui pensent que non, il n'y avait pas de manipulation. C'est le cas, par exemple, de Giorgio Galli, qui est un politologue éminent et l'auteur tout récemment d'un livre intitulé Plombio Rosso, Plomb Rouge.
L'operazione è stata pensata dalle Brigate Rosse.
L'operazione è stata pensata dalle Brigate Rouge.
Non c'è stato un complotto che andasse da Washington a Mosca.
Il n'y a pas eu de complot qui allait de Washington à Moscou.
Pas du tout. Pas du tout. I servizi italiani hanno sottovalutato che in tutto il periodo nel quale erano state lasciate riorganizzare, le Brigate Rosse si erano organizzate molto bene. E i servizi, secondo me, questo l'hanno sottovalutato.
A mon avis, les services secrets ont sous-évalué la capacité de réorganisation des Brigades Rouges. Ils n'ont pas compris quelle dimension militaire et quel potentiel avaient acquis les Brigades Rouges. Et donc, ils se sont retrouvés impréparés face à cette nouvelle qualité de l'organisation des Brigades Rouges.
Tuttora non è stato individuato il tiratore scelto che ha sparato in via Fani.
Sul Moro il y a nombre de mystères. Mais on peut commencer par un mystère, comment dire, tout à fait technique. On n'a pas encore compris, on n'a pas encore identifié qui était le tireur d'élite, parce qu'il fallait bien un tireur d'élite, qui a réussi à lui tout seul à descendre les 5 hommes de l'escorte sans toucher Moro, qui était au milieu de son escorte. Et c'est sûrement pas un des brigadistes qui ont été identifiés comme étant partie du commando de Via Fani, de celui qui a enlevé Moro.
Alors ça pourrait être qui? Le tireur d'élite?
È la domanda che Franceschini, che ha molti dubbi su Moretti, pone Qui est Latexville?
C'est une des questions qu'on se pose sur cet enlèvement, et c'est notamment la question qui pose Franceschini, qui était à cette époque en prison et qui a beaucoup de doutes sur Moretti, et qui demande qui était Lucky Luke. Il dit qui était Tex Wheeler, mais Tex Wheeler était un personnage de BD, un cowboy de BD italien qui correspond un peu à Lucky Luke, et donc Albertini demande qui était Lucky Luke in Via Fani.
Adesso vediamo e concludiamo sull'aspetto politico. Le Brigate Rosse ottengono un grande successo, chiedono in cambio del rilascio di Moro la liberazione di un certo numero di militanti arrestati, Curcio, Franceschini e altri.
Le Brigate Rosse ottengono donc un grand succès militaire, ils demandent en échange de la libération de Moro, la libération de toute une série, de tout un groupe de militants, des Brigades Rouges, mais pas seulement des Brigades Rouges, qui sont à ce moment-là emprisonnés, parmi lesquels Franceschini et Curcio.
Mais il loro vero obiettivo non è questa liberazione, quanto un riconoscimento politico. Vogliono essere riconosciuti come un soggetto politico combattente. Questa è la cosa che non ottengono.
Mais leur revendication principale, fondamentale, n'est pas tant la libération de ses camarades emprisonnés, mais c'est plutôt la reconnaissance de leur caractère de sujet politique combattant, d'adversaire politique combattant de l'État, chose qu'ils n'obtiendront pas.
Mais est-ce qu'ils le demandent explicitement? Est-ce qu'ils demandent explicitement cette reconnaissance?
Surtout à la démocratie chrétienne. L'ultima telefonata est del 30 aprile et Moretti si espone personalmente a telefonare alla famiglia Moro. Viene tentata la mediazione anche del Papa, si fanno vari tentativi. Dico, l'ultimo
notamente demande la riconoscenza della democrazia cristiana. Au point che il 30 aprile Mario Moretti, che è allora il chef di Brigade Rouge, si espose personalmente il telefono alla famiglia Moro, in disant il y a qu'un geste della democrazia cristiana e del suo segretario dell'epoca Zaccagnini, chi può sauver Moro?
Senta, io sono uno di quelli che ha qualcosa a che fare con suo padre, devo fare un'ultima comunicazione.
Sì. Noi
facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco, no? Finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente.
Alors ce document c'est le dernier coup de téléphone des Brigades Rouges du vivant d'Aldo Moro en mai 78. Celui qui parle, c'est probablement, très probablement, Mario Moretti des Brigades Rouges. Il s'adresse à la famille d'Aldo Moro pour obtenir ce qu'on vient de dire, ce que vient de nous dire Giorgio Galli, c'est-à-dire la reconnaissance politique des Brigades Rouges par la démocratie chrétienne en exigeant l'ouverture de négociations. Et bon, c'est la fin. On sait ce qui s'est passé. Ça a été le choix de la fermeté qui l'emportera, et donc Aldo Moro sera exécuté le 9 mai 1978 sans qu'on puisse savoir qui exactement était derrière les exécuteurs. On a vu la main de la Casa Madre, c'est-à-dire du Pentagone, de la CIA. On a beaucoup soupçonné Andreotti lui-même. On a beaucoup, on en reparlera, soupçonné également la loge P2, cette fameuse loge, enfin, cette espèce d'État dans l'État, mafieux à la fois, franc-maçon, etc., dont on reparlera. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'histoire n'est pas entièrement écrite. Voilà pourquoi nous retrouvons donc Prospero Gallinari, l'un des de ceux qui était là présent lors de l'enlèvement d'Aldo Moro et qui était présent lors de sa détention dans ce qu'on appelait ce que les Brigades Rouges avaient appelé la prison du peuple, c'est-à-dire, on le découvrira par la suite, un appartement planqué quelque part dans Rome, ou plutôt un appartement tout à fait ordinaire dans lequel Aldo Moro était détenu par les Brigades Rouges, dont Prospero Gallinari, aujourd'hui un quinquagénaire tout à fait tranquille, souriant, qui nous reçoit dans sa cuisine.
C'est 55 jours où Aldo Moro est détenu, et là tu es là avec lui.
Si. Oui. Sono quello che gestisce la casa, sì.
Je suis celui qui gère la maison, là où, la prison où il est maintenu.
Parle-nous un peu d'Aldo Moro, quel dialogue tu as avec lui, quel contact?
Quello che ci può essere tra una persona che è prigioniera, è stata sequestrata da un altro che la tiene prigioniera, per cui...
C'è il rapporto tra un sequestré e il suo gardien.
C'è uno scambio che si sviluppa attraverso una parte, l'interrogatorio che viene condotto dall'organizzazione.
Il y a un échange entre nous et Aldo Moro, a commencer par l'interrogatoire qui est conduit par l'organisation.
C'est toi qui conduis l'interrogatoire?
Non, è Mario Moretti.
Non, Mario Moretti.
Mais tu assistes aux interrogatoires?
Sì, sì, però si è deciso che doveva essere una persona sola che teneva tutta la...
Tout à fait, mais on avait décidé
in modo da non fare confusione, da tenere un filo fisso, e il ruolo di Mario era quello, il ruolo mio era quello di gestire la base, di garantire la sicurezza della base, la vita di Moro all'interno.
On avait décidé un partage de rôle très strict pour qu'il n'y ait pas de confusion et de brouillage. Mario Moretti c'était celui qui conduisait les interrogatoires pour maintenir un fil rouge très clair. Et moi, mon rôle était celui de gérer la maison, de garantir la sécurité de la maison et la sécurité et la vie aussi du prisonnier.
Quel était le but de ces interrogatoires?
L'obiettivo dell'interrogatorio è partito per processare la Democrazia Cristiana, cioè noi processavamo Aldo Moro come uno dei suoi massimi dirigenti, ma il problema non era.
Per noi c'était le procès alla Democrazia Cristiana, pas en tant que persone fisiche specifiche, ma en tant que per noi c'était le procès alla Democrazia Cristiana.
Là c'était un interrogatoire, c'est pas un procès.
Infatti un termine del processo era perché il popolo processa i suoi, però in realtà eravamo noi stessi vittime di un linguaggio che non era inventato da noi.
Il termine du procès était un terme rhétorique parce que la classe ouvrière fait le procès à la démocratie chrétienne en tant que représentant du capital, etc. Mais bon, finalement, on était nous-mêmes victimes de mots qui nous appartenaient pas, qui n'avaient pas décidé.
Oui, parce que la classe ouvrière dont vous parlez, dont vous prévalez à ce moment-là, elle vous ignore, même à la limite, elle vous rejette à ce moment-là. Victime de mots qui ne nous appartenaient pas, victime de mots dont nous n'avions pas décidé. On va voir plus tard comment Adriano Sofri, dans sa prison à Pise, juge justement cette folie du langage. Et c'est peut-être par là qu'on peut trouver la manipulation. Point de vue de Francesco Cossiga, ex-ministre de l'Intérieur, ex-président du Conseil, aujourd'hui sénateur à vie.
L'idéologia delle Brigate Rosse era una caricatura del marxismo-leninismo antistorico.
L'ideologia delle Brigate Rouge c'était una caricatura del marxismo-leninismo antistorico.
Loro non erano terroristi nel senso tecnico del termine.
Ils n'étaient pas des terroristes dans le sens technique du terme.
Terrorista è chi crede con l'atto terroristico di cambiare la società.
Terroriste, c'est celui qui croit avec son acte de terreur de changer la société.
Loro credevano di scatenare una dura rappresaglia dello Stato.
Eux pensaient déchaîner une dure réponse de l'État.
Che spingesse le masse ad insorgere contro lo Stato.
Qui aurait poussé les masses à s'insurger contre l'État.
E la nostra strategia è quella di un contenimento e di una repressione non indiscriminata.
Et notre stratégie était celle d'un contenement et d'une répression
non indiscriminata.
Non indiscriminée.
Une question évidemment qui revient depuis l'époque, est-ce que les Brigades Rouges étaient infiltrées, étaient manipulées?
Non.
Non.
Lo dico per due motivi.
Je le dis pour deux raisons.
Anzitutto perché conosco quasi tutti i capi delle Brigate Rouges.
La première, c'est que je connais à peu près presque tous les chefs des Brigades Rouges.
Et quando io ho lasciato il Palazzo del Quirinale,
quand j'ai fini mon mandat de président de la République,
io ho voluto capire che cosa fosse stato questo fenomeno del terrorismo.
J'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce que ça a été ce phénomène du terrorisme.
E mi sono trovato subito in contrasto con molti dei miei compagni di partito.
Et je me suis tout de suite retrouvé en opposition avec beaucoup de mes camarades de parti.
E anche con una grossa fetta del Partito Comunista Italiano.
Et aussi avec un gros morceau du Parti communiste italien.
Cioè, noi abbiamo avuto una piccola guerra civile strisciante.
Nous, en Italie, on a eu une petite guerre civile rampante.
Rampante.
Loro ritenevano di essere una forza politica.
Eux, c'est-à-dire les brigadistes et les terroristes, pensaient être une force politique.
Vous pensez aussi qu'ils étaient une force politique?
Sì. Mmh. Certamente. Un soggetto politico di ideologia astorica marxista-leninista religioso-cristiano.
Tout à fait. Je considère que c'était un sujet politique avec une idéologie marxiste-léniniste anti-historique et avec une sorte de messianisme de la tradition chrétienne.
Può darsi che loro fossero siano stati infiltrati a scopo di intelligence.
Il se peut qu'ils soient été infiltrés pour des raisons d'information, de renseignement.
Io credo che israeliani, sovietici, americani.
C'est-à-dire, moi je crois que les Israéliens, les Américains et les Soviétiques.
Abbiano voluto vedere da dentro di che cosa si trattava.
Ont peut-être infiltré le Brigade Rouge pour voir de l'intérieur de quoi il s'agissait.
Ma un movimento di questo genere, che aveva radici nelle fabbriche.
Mais un mouvement de ce genre qui avait des racines dans les usines.
E che era fatto da giovani intellettuali, tecnici, operai specializzati.
E che était constitué de jeunes intellectuels et techniciens spécialisés.
E che correvano il rischio di lunghe detenzioni o di morte.
E ancora il rischio di lunghe detenzioni e di morte anche.
Non possono essere su questa vasta scala manipolati dall'esterno.
Ne peuvent pas être su una base si large manipulée par l'extérieur.
L'affaire Aldo Moro. Eh bien, on est arrivé ce soir au point de non-retour, semble-t-il, avec la lettre écrite de la main même du leader de la démocratie chrétienne et adressée au journal romain Vita. Une lettre bouleversante qui semble être aussi un ultime appel d'Aldo Moro. Alors tout de suite, de Rome, notre envoyé spécial, Pascal Delannoy.
Cette lettre est la plus dramatique de toutes celles qu'a écrite jusqu'à présent Aldo Moro. Le président de la démocratie chrétienne est, on ne peut plus clair, il faut, dit-il, négocier, c'est une question de secondes, même pas de minutes. Aldo Moro qui dresse contre son parti un violent réquisitoire, il lui reproche d'éluder les problèmes politiques réels, reproche aussi très dur adressé à l'État, critiqué pour son inertie, son laxisme et son manque de sens historique. Aldo Moro qui au passage décoche quelques flèches en direction des communistes, une force, écrit-il, qui devra faire ses comptes avec tous ses problèmes. L'allusion venant de l'homme qui justement a le plus milité pour le rapprochement entre les deux grands partis italiens, l'allusion est claire quand on sait que dès le début, le parti communiste a rejeté toute idée de négociation. Et puis il y a ce passage étonnant où M. Moro parle de ses funérailles. « Je demande, écrit-il, qu'à ses funérailles ne participe aucune autorité de l'État, ni homme de parti. » Je demande seulement à être suivi par ceux qui m'ont vraiment aimé et sont dignes de m'accompagner par leurs prières et leur amour.
L'ideologia delle Brigate Rosse era una caricatura del marxismo-leninismo antistorico.
L'ideologia delle Brigate Rouge c'était una caricatura del marxismo-leninismo antistorico.
Loro non erano.
On sait qui l'ha abattu?
Aldo Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Io ho sostenuto questo per 15 anni quando dicevano che ero io che l'avevo ammazzato. Di conseguenza me ne sono sempre assunto la responsabilità, me l'assumo ancora oggi.
Pour ce qui me concerne, c'est insignifiant. Aldo Moro a été tué par les Brigades Rouges. Pendant 15 ans, on a dit que c'était moi qui avais tiré la gâchette.
Mario, nella sua intervista con Rossanda, dice che ha sparato lui.
Mario Moretti a dit que c'était lui qui avait matériellement tiré la gâchette, mais comme c'était pas décisif avant qu'on disait que c'était moi, c'est pas non plus décisif que Moretti se prend la responsabilité d'avoir appuyé sur la gâchette. Dès que je suis rentré dans les Brigades Rouges, j'ai considéré que j'avais assumé toutes les actions et les choix de cette organisation. Donc c'est les Brigades Rouges qui ont tué Aldo Moro et moi j'en ai fait partie, donc j'en assume la pleine responsabilité.
Cette logique-là autorise à tuer.
La storia legittima l'omicidio.
L'histoire légitime l'assassinat.
quanti rivoluzionari sono stati uccisi, quanti popoli sono stati massacrati sulla base di interessi, quanta gente sta morendo in questi giorni in Iraq, abbiamo notizie, stiamo qua discutendo del fatto
l'amore è fa parte dell'histoire, combien de rivoluzionari ont été tués, combien de peuples ont été massacrés pour des intérêts souvent économiques, combien de aujourd'hui encore en Iraq il y a des dizaines d'Irakiens qui meurent tous les jours. L'amour fait partie dramatiquement de l'histoire. Moi j'ai jamais été un chasseur, j'ai jamais été aucune envie d'aller à la chasse d'hommes, donc c'est pas je le regrette que ce soit comme ça, mais c'est comme ça, l'amour fait partie de cet affrontement.
Est-ce que l'enlèvement d'Aldo Moro était une erreur ou non, de ton point de vue?
Non si può rivedere la storia con i se e con i ma.
On ne peut pas refaire l'histoire avec les si ou les mais.
Aujourd'hui, 30 ans plus tard, la version la plus communément admise, c'est que le gouvernement italien, conseillé par les États-Unis, a délibérément fait échouer les négociations. Steve Pinchnik, un ancien agent américain, a raconté comment il a participé au court-circuitage des négociations. « J'ai instrumentalisé les Brigades Rouges », a-t-il déclaré, pour leur faire tuer Aldo Moro. Merci à tous, c'était un reportage avec Francesco Giorgini. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Claudine Lapersonne et Pascal Baldassari étaient à la technique aujourd'hui. Yann Chouka et Koyen Nguyen ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, Christophe Imbert. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.